France Inter.
La rénovation énergétique, c'est 200 milliards d'euros de travaux. 50 milliards d'euros par an. Monsieur le ministre, une simple question. Comment nous pouvons parvenir à cet objectif? C'est-à-dire qu'il faudra arrêter d'entretenir et de rénover notre patrimoine pour tout consacrer à la rénovation énergétique.
C'est un défi immense. Il ne reste que 9 mois pour respecter le calendrier de la loi climat en matière de rénovation énergétique et tout ou presque reste à faire. Au 1er janvier 2025, près de 600 000 maisons et appartements classés en catégorie G devront avoir été rénovés ou inscrits dans un programme prévisionnel de travaux. Les logements classés en catégorie F, à peine mieux isolés, mal chauffés, mal entretenus, devront avoir été mis aux normes avant 2028. Au total, si rien n'est fait, près de 5 millions de passoires thermiques pourraient sortir du parc privé, interdit à la location, avec à la clé une aggravation de la crise du logement. Les propriétaires et copropriétaires ont souvent repoussé les travaux à faire au calende grec pour éviter d'avoir de trop gros montants à investir. Ils découvrent aujourd'hui une montagne de devis, un Everest de la rénovation.
Le projet global, il a été annoncé ce soir, on est sur 1,2 million sur l'ensemble de la copropriété.
Et vous, d'accord, vous avez payé combien?
Moi je suis à 50 000 euros. Oui, c'est énorme. La montagne, pour moi, elle est énorme. Si on se projette au niveau national, c'est colossal.
Avec l'évolution de MaPrimeRénov', les ménages vont sans doute être mieux armés, mieux aidés dans les années qui viennent. Le gouvernement hésite encore. Après avoir pris la décision ambitieuse de privilégier des projets de rénovation globale, les dernières annonces de l'exécutif autorisent finalement les propriétaires de bâtiments mal isolés à ne changer que leur système de chauffage pour remplacer, par exemple, une vieille chaudière au fioul sans toucher au reste.
Décarboner le système de chauffage sans isoler, c'est comme proposer aux gens de chauffer les rues en vous baladant tout nu en plein hiver. En fait, ça n'a aucun sens. Donc il faut d'abord vous habiller, mettre une doudoune, et si vous avez encore froid, on réfléchit. Mais on ne va pas mettre du chauffage avant d'isoler. C'est vraiment la base.
À ces incertitudes, à ces inquiétudes, s'ajoute une myriade de cas particuliers. Bâtiments trop fragiles, trop anciens, classés au patrimoine. Et c'est dans le centre historique de Rennes, à quelques encablures de la rue de la Soif, que commence cette émission, au milieu de maisons à pans de bois qui abritent aujourd'hui des studios d'étudiants. Des propriétés fragiles, avec un bâti en mauvais état qui a poussé les pouvoirs publics à lancer un grand plan d'accompagnement à l'échelle du quartier. Passoire thermique, le grand chantier de la rénovation, un reportage de Claire Chaudière, prise de son Romain Lucquins et Raymond Albouy.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Là, on est au 35 rue Victor Hugo, donc un immeuble en fait qui date du 13e siècle. L'état, vous allez le voir, est extrêmement dégradé, ce qui a conduit la ville en fait à prendre un arrêté de péril avec évacuation. Donc aujourd'hui, il n'y a plus personne. Alors, je vais prendre ma clé. Allez, par contre, il n'y a pas d'électricité. Je vais mettre mon téléphone.
On est dans le noir.
Oui. Alors, hop, c'est bon. Donc voilà, donc en fait, caractéristique, très grand couloir qui dessert de part et d'autre, en fait, des petits logements. Donc voilà, du studio. Alors, bah, on le sent quand même quand on rentre, il fait frais. Alors, c'est vrai que c'est des surfaces qui sont plus occupées, donc il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de ventilation, etc. Mais là, les enjeux thermiques, ils sont majeurs. On est globalement partout sur de la passoire thermique avec des étiquettes autour de F. Voilà, donc là, on voit bien que les enjeux, ils vont se situer sur l'isolation des parois, la question des changements des menuiseries. Alors, en sachant qu'on est sur un bâtiment qui est extrêmement protégé, on a 2 ans de chantier en moyenne, juste le chantier. Donc là, le temps de finaliser la phase d'études, etc., on peut se dire dans 4 ans.
Bon, voilà. Rendez-vous dans 4 ans.
on traverse des pièces dans un état effectivement très dégradé. Des morceaux de plâtre, de bois jonchent le sol, du vieux papier peint parfois. Tout ça dans un, malgré tout, historiquement très beau bâtiment en pan de bois. Ça ressemble un peu aux bâtiments à colombage, les bâtiments en pan de bois. Et même si ici le bois est quasiment entièrement recouvert en façade, les parois ont énormément vieilli. On se sent vraiment en prise directe avec l'extérieur. Nous sommes avec Mélanie Barchino de Territoire Public, une entité qui émane de la ville de Rennes et de la métropole et qui coordonne cet énorme chantier de réhabilitation de 600 bâtiments du centre ancien de Rennes.
Là, pareil, on voit toutes ces dispositions en fait, le long couloir.
Sur ce centre historique, vous le disiez, la rénovation elle est plus technique, donc elle va coûter aussi plus cher. Comment vous faites pour convaincre les copropriétaires de mettre plus d'argent ?
Dans ce cas de figure-là, on a une subvention de 35% du montant des travaux. Le modèle de financement en fait, de cette opération, donc l'OPA Renouvellement Urbain, on a des financements de l'ANA et de la métropole.
L'ANA, pour nos auditeurs, ouais. C'est l'Agence Nationale de l'Habitat.
Oui, tous les travaux compris, on ne fait pas distinguo entre rénovation énergétique ou travaux structurels pour permettre un accompagnement financier. Mais forcément, c'est un coût complémentaire pour les propriétaires. On était sur une moyenne, je pense, autour de 600 000 euros par immeuble au départ. Et aujourd'hui, on est plutôt sur 1 million en moyenne.
Pour 600 immeubles. Donc, ça fait...
On peut faire le calcul. Bah, donc, du coup, 600 millions. C'est énorme.
Ok. On va voir un peu.
On passe par la rue quand on se montre.
Alors, c'est quoi les chiffres, la proportion de passoires thermiques sur ce périmètre ?
Sur le périmètre du centre ancien de Rennes, c'est 71% des logements privés qui seront à terme, donc 2034, on considère étiquette EFG, qui seront considérés comme passoires thermiques. Sachant qu'on est sur un périmètre avec essentiellement des propriétaires bailleurs, propriétaires investisseurs de petites surfaces.
Qui habite dans ces petites surfaces ?
Essentiellement des étudiants, ou voilà, des populations des fois un peu captives d'un habitat aussi dégradé, quoi.
Vous dites 2034, mais il y a une première échéance importante qui arrive au 1er janvier 2025, dans quelques mois à peine.
Oui, tout à fait. En fait, ça va s'échelonner. Et en fait, ce qu'on constate dans les chiffres, c'est à peu près 20% à chaque étape, en fait. Donc 2025, 2028 et 2034, à chaque fois, c'est 20% en fait, du parc locatif qui risque de sortir du marché immobilier. On est aujourd'hui quand même dans un marché immobilier qui est extrêmement tendu, déjà. Mais en fait, on n'a pas le choix et on est prêt à relever le challenge, quoi.
Isolation des murs, changement des fenêtres, mais aussi des aérations. Après ces travaux, cet appartement va passer d'un diagnostic de performance énergétique G à la catégorie D. Et pour cause, à partir du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de louer des logements de la catégorie G. Faute de rénovation, les passoires thermiques disparaîtront donc du parc locatif. Mais pour certains propriétaires, engager des travaux n'est pas suffisant pour améliorer la performance énergétique du logement. C'est toute la copropriété qui doit être rénovée.
Alors, je suis Hervé Dubois, je suis propriétaire de biens immobiliers sur Rennes. Je travaille dans une étude de notaire.
Vous êtes multipropriétaire d'appartements ?
Exactement, je suis multipropriétaire, donc ce sont des appartements dont nous avons fait l'acquisition avec mon épouse il y a une dizaine d'années. C'est avant tout pour un complément de retraite.
Vous avez combien de studios ?
Alors, nous en avons 6, donc 6 prêts.
6 emprunts bancaires.
Exactement.
Alors, ce qui fait qu'on vous rencontre aujourd'hui, c'est que vous êtes concerné par cette échéance du 1er janvier 2025, parce que l'un de vos appartements est classé G.
Alors oui, exactement. On voit un mur arriver qu'on n'avait pas vu venir. On découvre le poteau rose, là, tout de suite, un an avant l'échéance. C'est très inquiétant. Bon, moi, j'étais conscient qu'il fallait changer les fenêtres, donc on va changer les fenêtres.
Parce que dans votre appartement, c'est encore du simple vitrage.
Et c'est un chauffage au fioul. Et tout ce qui est au fioul ou au gaz sont classés maintenant F et G. De passer en électrique et d'avoir l'accord de la copropriété, Bon, tout ça a un coût, hein, forcément.
À peu près, vous avez évalué à combien ça, ce que ça allait vous coûter de faire ces travaux ?
Alors, entre 5 000 et 10 000 euros. Ça peut poser problème, quoi.
C'est quoi l'équation financière pour vous ? Les loyers vous rapportent combien et les emprunts remboursés combien, à peu près ?
Alors, un loyer, c'est à peu près 400 euros. Un loyer de studio, vous multipliez par 6, hein, 6 fois 4, 24, 2400 euros, multiplié par 12. Bon, j'ai autant d'emprunts. Donc, ce qui vient en plus, les travaux, il va falloir que je fasse un nouveau prêt pour l'étaler dans le temps, quoi. Il y en a qui vont vendre, hein. Ça c'est sûr, hein. Il y en a déjà des ventes de biens de ce style sur le marché, quoi. Et donc qui sont vendus à un prix inférieur à ce qu'ils auraient dû être vendus, quoi. 5 000, 10 000 euros pour faire des travaux, les gens ils les ont pas, quoi. Donc que faire, hein. C'est la vente, quoi. C'est inévitable, hein.
Sur le simple vitrage de votre appartement, là, vous n'êtes pas dit, déjà il y a quelque temps, il faudrait quand même passer au double vitrage ?
Alors oui, alors ça, il n'y a aucun problème. Hein. Le propriétaire a des devoirs envers son locataire, en termes de bruit aussi, et puis d'économie d'énergie. Il n'y a aucun problème pour ça, sauf que sur Rennes, le marché est tellement tendu qu'une personne part, le lendemain, il y a une personne qui arrive. À chaque fois qu'il y a un départ de locataire, je me dis, on se pose un ou deux mois, on va faire un peu de peinture, on va un petit peu le rafraîchir, et on m'appelle, on est dit, il y a une personne qui veut le prendre tout de suite dans l'état, et donc c'est aussi compliqué pour nous de vouloir faire des travaux pour les remettre un petit peu à neuf, quoi. Voilà, on va trouver des solutions, et de toute façon, il n'y a pas le choix.
Bonjour, est-ce que c'est la maison des associations ? On cherche une réunion de copropriété qui a lieu dans ce bâtiment, je crois. Voilà.
Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour vous donner un exemple sur les faiblesses de votre enveloppe, voici quelques prises de caméra thermique. On voit bien une différence de température assez importante entre les surfaces.
Je parle pas très fort parce qu'on est en pleine réunion. Me voici en train d'assister à une réunion de copropriété. On parle là d'un immeuble rennais des années 60, très différent de ceux du centre ancien. Et ses habitants, ils sont une quinzaine ce soir à avoir fait le déplacement, écoutent très attentivement les préconisations d'un cabinet d'études et de différents experts. Tout le monde est très concentré. Les enjeux financiers sont importants.
Ce qu'il faut retenir, c'est que vos bâtiments ne sont pas isolés. On ajoute le remplacement des menuiseries privatives et des portes palières. On isole les murs par l'extérieur avec retour d'isolant sur tableau et linteau. Et maintenant, on va vous présenter le...
Alors, plusieurs scénarios de rénovation, plus ou moins ambitieux, on va dire, sont en train d'être présentés en ce moment.
Et les résultats sont les suivants. On est à 1 291 000 euros hors taxes pour le budget global. Vous atteignez, d'après le calcul réglementaire, la lettre B avec une consommation de 79 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an et une lettre C de consommation de gaz à effet de serre, qui, je pense, c'est une coquille.
Et ce que je viens de comprendre, ce que tout le monde explique, c'est que le scénario le plus performant, le scénario BBC pour basse consommation, il reviendrait au final, paradoxalement, légèrement moins cher que le scénario intermédiaire parce que les aides sont plus importantes.
En gros, scénario entretien, on est en moyenne à 18 600 euros de reste à charge. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul en fonction du coût à la revente et les 10%. Est-ce que le surcoût, il est rentabilisé à la revente ? Je pense que oui.
Est-ce que tout est clair pour vous ?
Oui.
Voilà, la réunion se termine. Dans l'assistance, il y a des retraités, des enseignants, des ingénieurs. Tout ce petit monde se prépare à rentrer chez lui. Et je vais aller voir Gérard, que j'ai croisé avant la réunion et qui possède un grand appartement dans l'immeuble, un T5.
Il y a de l'inquiétude. Moi, je suis propriétaire bailleur, donc c'est un petit peu différent, mais je me mets à la place de propriétaire occupant, avec des revenus bas. Ça peut être une source d'inquiétude très forte, très très forte. Et ça peut même bloquer le projet, je pense, absolument.
Vous avez retenu quel ordre de grandeur pour le coût de ce projet ? Parlons du projet qui inclut une rénovation globale.
Alors, le projet global, il a été annoncé ce soir. On est sur 1,2 million sur l'ensemble de la copropriété.
Mais vous, d'accord ? Vous auriez payé combien ?
Ah, moi, je suis à 50 000 euros. Oui, c'est énorme. Après, il y a des aides qui sont proposées et heureusement, on a la ville de Rennes qui est présente et qui aide bien quand même à travers éco-travaux. Mais de 50 000 euros, on va descendre à 30 000 euros pour nous.
30 000 euros, vous les avez ?
On les trouvera. Mais c'est une projection, c'est du long terme. C'est sûr que moi, c'est pour mes enfants que je fais ça, en fait. Hein. C'est clair. Je n'aurai pas les bénéfices de tout ça de mon vivant.
Voilà. Vous pensez que le calendrier va être tenu, là ? Il reste que quelques mois pour les passoires thermiques classées G.
Je pense qu'il y aura une adaptation nécessaire pour que ça puisse passer.
Pourquoi ?
Au niveau de la loi. Parce qu'on en a parlé un peu ce soir, quand même. Les travaux, il y en a pour 2 ans. Hein, si tout va bien, si le timing est respecté, on sera limite. Vu tout, si je parle du bassin rennais, que je connais un tout petit peu, il va y avoir énormément de logements concernés. J'ai du mal à avoir passé tous les immeubles avant 2035 en BBC, quoi. Inévitablement, pour moi, les dates qui sont annoncées vont devoir être bougées.
À bientôt.
Merci beaucoup. Vous avez une petite minute à nous accorder, alors ?
Oui.
Bon, donc, Didier Hellec, président du Conseil syndical.
Oui.
Verdict, vous étiez un petit peu inquiet au début de cette réunion, hein. C'était stressant quand même.
Moi, je pense qu'il y a un défi là qui est vraiment immense parce que les délais de traitement, hein, comme vous avez vu, nous, on a commencé il y a 2 ans et on aura peut-être fini les travaux dans 4 ans. Il faut quand même 6-7 ans. On sait bien que c'est un temps très long dans les copropriétés pour prendre les décisions, mener les projets. Et puis, on ne travaille pas sur un appartement, on travaille quand même sur un immeuble qui fait quelques dizaines de logements. Après, on peut avoir le sentiment d'essuyer un peu les plâtres parce que c'est vrai qu'on... On ne sait pas trop où on va, quand même.
Derrière ces gigantesques chantiers de rénovation longs et coûteux, un seul arbitre, le DPE, Diagnostic de Performance Énergétique. C'est 7 indicateurs qui classent les logements de la lettre A à la lettre G en fonction de leur performance et les fait basculer lorsqu'ils sont trop mal isolés ou consomment trop dans la catégorie des passoires thermiques. Pour faire le calcul, plus question de prendre en compte les factures d'énergie, le diagnostic repose désormais uniquement sur les caractéristiques techniques des bâtiments, avec un peu partout en France des erreurs, parfois des fraudes.
De Bordeaux-Saint-Jean. La météo annonce une température extérieure de 1 degré. Les gens avec TGV Inouï, vous avez choisi le mode de transport le plus écologique pour votre voyage.
Dans le sud-ouest, c'est chez une trentenaire que Claire Chaudière a rendez-vous. Solène vient de signer son premier achat immobilier avec à la clé une première déconvenue.
Interception sur France Inter.
Merci de m'accueillir chez vous.
Avec plaisir.
Vous étiez en train de travailler là ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je travaille dans l'informatique. Ici, vous avez l'espace nuit, avec une première chambre de ce côté, et une deuxième chambre ici, qui fait office de bureau. Et ensuite, si on repasse de ce côté-là, vous avez vous ici, buanderie et WC. Donc j'ai acheté cet appartement en juin donc 2023. C'est un appartement que j'ai acheté pour vivre dedans, donc à vocation d'être une résidence principale. Lorsque j'ai acheté l'appartement, je l'ai acheté sur la base d'un DPE qui classait l'appartement en E, en performance énergétique. Moi, j'ai basé tous mes travaux sur les recommandations qui étaient faites et écrites sur ce DPE. Du coup, il n'y avait pas besoin de faire une isolation puisque le coefficient d'isolation de la pierre était bon.
Pour vous, un DPE étiquette E, c'était plutôt positif ?
Oui, dans la mesure où l'appartement est dans de l'ancien. Après travaux, je pouvais espérer remonter sur du D, ce qui est déjà pas mal quand on n'est pas dans du neuf. Moi, ça me permettait déjà de me projeter, de pouvoir le louer dans quelques années si besoin, en étant classé en D. Donc j'ai pas fait réisoler l'intérieur, mais j'ai fait une rénovation globale, j'ai retiré le gaz, j'ai tout passé à l'électrique avec un cumulus plat, des radiateurs à inertie, enfin tout ce qui était recommandé du coup. Et après mes travaux, donc là sur la rentrée au mois d'octobre, j'ai refait passer un diagnostiqueur pour voir du coup ce que j'avais gagné après rénovation. Et il s'avère que mon appartement est maintenant classé en G.
Après ses travaux.
Après ses travaux, exactement. Ouais. Donc c'était la douche froide, hein, évidemment, quand j'ai eu ce deuxième diagnostic. Et il s'est avéré qu'en fait, on a relevé des erreurs d'un point de vue technique, hein, sur le premier diagnostic qui a été fait, notamment sur le calcul de ce coefficient d'isolation de la pierre, qui s'appelle le U-mur.
Voilà. Là, quand vous découvrez ça, qu'est-ce que vous faites ?
Je panique. C'est un premier achat. La première réaction, c'est de la déception, entremêlée à de l'incompréhension. Donc, je me renseigne, je regarde sur Internet, j'en parle un petit peu autour de moi. Je me rends compte que je suis pas la seule, malheureusement. Très vite, je me suis dit que j'allais prendre contact avec le premier diagnostiqueur. J'ai compris, et il a reconnu au téléphone qu'il y avait une erreur technique qui avait été faite, mais j'ai compris que j'obtiendrais rien de sa part à l'amiable. Donc, malheureusement, il me reste qu'une seule solution, c'est d'engager une procédure avec un avocat.
Qu'est-ce que vous voulez obtenir ?
Je voudrais obtenir un dédommagement, parce que si dans quelques années je suis amenée à quitter cet appartement, si je veux le mettre en location, je ne peux pas le faire. Je veux obtenir un dédommagement parce que il faut refaire tout l'appartement. Il faut isoler l'appartement depuis l'intérieur, ce qui me ferait perdre environ 10% de la surface de l'appartement. Donc je veux qu'on m'indemnise aussi sur la perte de la surface d'appartement, qui va être un préjudice non négligeable. Hein. Donc ça change tout le projet. Mais évidemment que je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est une arnaque ? Est-ce que volontairement, on m'a vendu un bien classé en E pour qu'il soit nécessairement surévalué d'un point de vue financier ? Je ne sais pas. J'espère que la procédure tranchera tout ça.
Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui par rapport à tout ça ?
Je suis fatiguée d'avance. Parce que je sais que la procédure va être longue. Je suis un petit peu perdue, en fait. J'ai des grosses factures. Pour un appartement qui fait 56 mètres carrés, là, sur l'hiver, je suis à 300 euros par mois. Ce qui est énorme et ce qui n'était pas du tout prévu en termes de projection avec mon fournisseur électrique. Je suis censée tourner autour de 100-150 euros par mois avec un appartement tout à l'électrique bien isolé.
C'est beau avec les toits enneigés. C'est vrai que là, il ne doit pas faire très chaud toute la journée si vous ne chauffez pas. Hein. Ouais, les murs, comment sont les murs ? Ah, ils sont bien froids.
Ah oui, hein.
Et vous avez des beaux radiateurs. Oui, qui chauffent bien. Hein.
Ah ben, ils font que ça.
Il y a du chaud qui sort, là.
Ils font que ça.
Chauffer, les murs chauffer. Sont froids juste à côté, mais ils chauffent bien. C'est quoi le programme de la journée, maintenant ?
Et là, écoutez, j'ai rendez-vous avec mon avocat. Donc, je vais me rendre au cabinet pour commencer à regarder tout ça un petit peu plus dans le détail avec l'avocat et voir comment on démarre la procédure qui, je pense, va être assez longue.
Vous descendez ?
Oui.
Vous êtes à vélo ?
Oui. Comme tout bon bordelais qui se respecte.
Pour la suite de la journée de Solène.
Et donc, je me rends chez l'avocat pour avancer sur la procédure qu'on a en cours.
Ben, bon rendez-vous.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Interrogés au sujet de ces erreurs de diagnostic, les avocats spécialisés l'assurent, ces contentieux naissants sont en train de prendre de l'ampleur. Ils arrivent devant les tribunaux.
Bonjour, je suis Thierry Marchand, je suis diagnostiqueur immobilier en Bretagne, je suis également ingénieur en bâtiment et administrateur de la chambre de diagnostiqueur immobilier de la FNIM.
Les représentants des diagnostiqueurs, eux, parlent de situations exceptionnelles.
Allô ?
Et qui sont le résultat d'approximations plus que de fraudes.
Oui. Il y a effectivement, je connais des procédures qui sont en train d'être instruites, mais je peux vous garantir que depuis janvier 2022, ça va faire maintenant presque 2 ans, le travail s'est vraiment accentué, les formations étaient au rendez-vous, on a une qualité de professionnelle beaucoup plus pertinente, mais il reste encore, comme toujours, des personnes qui n'ont rien à faire dans une filière, quelle que soit d'ailleurs. Ce sont des exceptions, ça c'est certain.
Leur inquiétude, c'est surtout la volonté affichée du gouvernement de continuer à modifier cet outil. L'exécutif a annoncé un changement de mode de calcul plus favorable pour les petites surfaces et un autre coefficient énergétique pourrait être modifié. À la clé, la levée pour des centaines de milliers de logements de l'obligation de faire des travaux.
Si vous voulez, si on n'arrête pas de changer le mètre étalon en fonction de l'humeur du moment, c'est plus un mètre étalon, il vaut mieux tout arrêter. Et on n'aura plus aucun guide. Vous vous rendez compte qu'il y a des biens qui ont été achetés, qui ont été vendus, parce qu'il y a des propriétaires qui ont vendu leurs biens, parce qu'ils étaient classés en G. Puis ils sont peut-être plus en G aujourd'hui, puisqu'avec le nouveau système de modification des seuils des petites surfaces, finalement le bien il était peut-être en F ou en E. Il faut que les pouvoirs publics arrêtent de modifier systématiquement les textes. Là, c'était de l'ajustement qu'on a fait sur les petites surfaces. C'était un ajustement absolument nécessaire. Mais il faut laisser au mètre étalon DPE vivre ces prochaines années, qu'on revoit le dispositif dans 7, 8 ans, 10 ans, parce qu'on aura besoin de le revoir en intégrant d'autres données, mais laisser le DPE et qu'on puisse commencer à engager réellement les travaux.
Merci beaucoup. Alors, bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Depuis le jardin, on aperçoit ce grand verger juste de l'autre côté de la route. On est à Sougey, petit village du Loir-et-Cher, et juste en face de nous, un pavillon des années 80 qui ne ressemble pas du tout à un pavillon des années 80 puisqu'il a été comme enveloppé et au passage transfiguré avec 20 cm d'isolant, enveloppe enduit sur la partie basse et puis du bois sur la partie haute, du Douglas, un bois avec une teinte un petit peu rosée, c'est assez joli. Et cette maison, c'est celle de Vivien et Léa, la trentaine, néo-ruraux, on va dire. Vivien qui travaille dans une entreprise de financement participatif et Léa, désormais boulangère.
La première année qu'on a passée ici avec du coup toutes les menuiseries, on a eu bien froid. Ouais, et puis c'était des courants d'air en fait. On avait froid quand il y avait des courants d'air dehors. Et ça, du coup, on s'est rendu compte à quel point ça valait le coup.
C'est vrai que l'année dernière, on avait payé 2000 euros de fuel. Là, on est fin janvier et on a dépensé 200 euros de chauffage. Et l'isolation n'est pas terminée, donc je me dis, c'est quand même chouette. On s'est autorisé à acheter la maison si on savait dès le début qu'on avait les capacités de tout rénover d'un coup. Nous, on est aux alentours de 120 000 euros de rénovation. Donc, c'est un très gros billet. Après, bon, on a de la chance dans le coin, les maisons ne sont pas très chères. Finalement, à la fin, ça fait une maison normale. Donc là, j'ai le coût total, c'est 124 000 euros. Je ne sais pas si je détaille.
Oui, je veux bien. L'ITE,
c'est... Alors, l'ITE, c'est l'isolation par l'extérieur. On est à 50 000 euros. Les menuiseries, ça comprend aussi les volets. On est à 26 000 euros. Chauffage, 30 000 euros. La VMC, 11 000 euros. L'isolation des combles, on est à 2 500 euros. On a 30 000 euros d'aide. C'est pas rien, mais après, c'est quand même pas mal de démarches. Bah, moi, je suis quand même content qu'on ait fait cette rénovation. On voit au jour le jour qu'on dépense de moins en moins d'énergie pour vivre dans cette maison-là. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Après, moi aussi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le fait qu'on n'ait pas eu besoin de reconstruire du neuf pour avoir une maison qui est très agréable à vivre. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette maison-là, c'est que finalement, le pavillon, là, il a été créé au tout début pour être un truc populaire où tout le monde voulait avoir ce pavillon et c'était très chouette d'avoir un pavillon. Après, c'est parti un peu en désuétude et ça a perdu son charme. Et je trouve qu'avec ce type de rénovation, ça permet de redécouvrir le pavillon et de se réapproprier ce truc un peu populaire et de pouvoir ouais, d'avoir des beaux logements, des logements agréables. Et finalement, on a plein de partout des pavillons comme ça.
Puis avec la vue aussi, parfois il y a des matins comme ça, on a la brume avec le lever de soleil. C'est super en fait.
Bonne continuation.
Ah, je vais essayer de faire sortir. C'est pas grave.
J'ai envie de sortir.
Donc Samuel Breton, société Vivre Éco, basée à Épuisé. On fait de la construction au Saturbois et de la rénovation énergétique de l'habitat.
Et c'est vous qui vous êtes occupé du pavillon de Vivien et Léa.
C'est ça.
Donc on est chez vous.
À Épuisé.
Et on voit des échantillons de matériaux isolants, là, d'isolation de façade.
Alors, isolation de façade, juste derrière vous, isolation de toiture pour rehausser les couvertures et les isoler par l'extérieur. Et là, donc, exactement ce qu'on a fait chez M. Cormier, son ancien mur, panneau en fibre de bois ou laine de bois au choix, en fonction de la sensibilité des personnes et aussi du pouvoir d'achat.
C'est ça, parce que plus on utilise des matériaux biosourcés, comme on dit, c'est-à-dire avec un faible bilan carbone, plus ça coûte cher.
Voilà, c'est à peu près bien résumé. Même si l'écart s'est un petit peu réduit entre les différents matériaux. Hop. Je pose ça là. Je vais vous faire visiter les lieux, mes collègues, parce que j'en ai qui travaillent pendant que je me promène.
Vivre Eco, bonjour.
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 Enchantée.
Donc Mélanie, qui alors, s'occupe de toute la partie administrative, secrétariat, un peu de comptabilité, accueil client.
Vous devez être en retard comme tous les artisans.
Voilà, non, c'est ça.
Vous sentez vraiment là les projets de rénovation monter en puissance?
Ça monte en puissance et les clients sont un peu perdus. Et nous, on essaye de démêler un peu tout ça, on essaye de les aiguiller au mieux, parce que c'est pas évident non plus pour nous. Combien ils vont avoir d'aide, combien va leur coûter le devis, combien au final ils vont pouvoir récupérer, quoi.
On sent qu'il y a une demande, il y a de l'intérêt. Maintenant, nous, on a du mal à aiguiller les prospects. Les gens sont un peu perdus au milieu de tout ça, ne savent pas trop quelle est la porte d'entrée. Donc c'est pour ça, c'est une bonne chose de mettre en place ce qu'on appelle l'accompagnateur Rénov. Ils ont besoin d'un référent, mais aujourd'hui, il y en a très peu. Ça a été un peu plus vite que la musique. Les gens sont pas formés, sont pas prêts. On sent que la filière est pas structurée. Et on voit qu'on est très phagocyté par des grosses sociétés qui, elles, ont recours à des travailleurs détachés, de la main-d'œuvre étrangère, qui vont aller faire des rénovations bas de gamme. Pour eux, c'est du pain béni. Et ils font énormément de chantiers.
Vous les croisez, vous, sur le terrain?
On les croise, ouais.
C'est ceux-là que vous appelez les éco-délinquants?
Il y a une bonne partie d'éco-délinquants, ouais.
Donneurs. Qui finalement vivent sur les aides proposées par MaPrimeRénov', c'est un peu ça que vous dites?
C'est ça. Donc c'est ça, ils arrivent à mobiliser suffisamment d'aides pour très bien s'en sortir. Après, les travaux sont plus ou moins bien faits. Il y en a, c'est bien fait, d'autres, c'est pas le cas. Et puis, c'est des sociétés, parfois, que vous retrouvez pas du tout. Mais les gens, ça leur coûte pas grand-chose, donc ils sont contents. Ils ont une pompe à chaleur qui est posée pour 1 €, alors que normalement, il devrait y avoir d'autres travaux de fait à côté, et ils ne sont pas faits, voilà, mais c'est toujours mieux à 1 €, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Alors nous, on passe parfois un peu pour des marioles, parce qu'ils ne comprennent pas que nous, on va être plus cher, parce qu'on respecte les règles. Voilà. Faut que le gouvernement ne distribue des aides que sur des chantiers qui sont contrôlés. Certifié, contrôlé, de qualité. Peu importe après qui les réalise, mais il faut que ce soit des chantiers. C'est de l'argent public, il faut que les chantiers soient bien faits.
Vivre Eco, bonjour.
Après des mois de concertation, une réforme importante de l'accompagnement des ménages a donc été actée l'an dernier, date d'entrée en vigueur 1er janvier 2024. Un budget porté à 5 milliards d'euros, des aides à réévaluer jusqu'à 90% de prise en charge pour les propriétaires très modestes et des travaux dits d'ampleur fortement encouragés au détriment de plus petits travaux isolés, désormais moins subventionnés. Mais très vite, une partie du secteur du bâtiment s'est inquiétée, alertant sur un effondrement des carnets de commandes.
Pour cette grande entreprise du secteur, cette réforme interroge. 90% de leurs commandes sont des travaux uniques. Les rénovations globales, plus chères, pourraient décourager les Français.
Le gouvernement a donc fait partiellement marche arrière. Pour mieux mesurer ces enjeux, nous avons rendez-vous avec Léa Namsika du réseau Doremi qui coordonne et accompagne des chantiers de rénovation globale un peu partout en France, dans les locaux parisiens de l'association.
Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur, on parlait nous de rénovation performante et rénovation globale. Tout le monde nous regardait avec des grands yeux en nous prenant pour les derniers écolos sortis des bois. Le temps a passé, les crises énergétiques se sont succédées. On parlait de passoires thermiques, on parle maintenant de passoires et de bouilloires thermiques en été. Qu'est-ce que pourrait être un accompagnement à la rénovation en allant le plus loin possible dans la performance avec des acteurs qui soient formés, qui aient des compétences particulières, qui soient payés pour ça? Et donc ça a préfiguré finalement toutes les discussions qu'on a eues en 2023.
Et donc après ces mois de concertation auxquels vous avez participé avec d'autres acteurs, d'autres industriels, d'autres associations, qu'est-ce que ça a donné fin 2023?
Alors fin 2023, on est arrivé sur une réforme qui était quand même une grande évolution par rapport à ce qui a été les années passées, c'était de permettre à tous d'avoir un accompagnateur Rénov, donc d'être accompagné de A à Z dans son projet. Ensuite, de bénéficier d'aides qui sont croissantes en fonction de la performance que vous atteignez dans la rénovation, donc de vous donner une incitation à faire des rénovations performantes plutôt que des rénovations partielles. Et l'autre élément, c'est si vous en aviez besoin parce que vous étiez modeste ou très modeste, un reste à charge grâce à ces aides qui étaient bien réduites par rapport à la situation d'avant.
Mais vous parlez de cette réforme au passé, déjà.
Oui, je parle au passé. Il y a eu déjà un premier revirement toute fin 2023, qui est un peu technique mais qui est assez important, qui a été de dire « Ah, finalement, les maisons passoires, donc les logements F et G, ces logements-là, pourront quand même faire un changement de chauffage seul. » Alors que ça avait été une des lignes rouges qui avait été vraiment annoncée par le secrétariat général à la planification écologique, par le gouvernement, décarboner le système de chauffage sans isoler, comme je disais, c'est comme proposer aux gens de chauffer les rues en vous baladant tout nu en plein hiver. En fait, ça n'a aucun sens. Donc il faut d'abord vous habiller, mettre une doudoune, et si vous avez encore froid, on réfléchit. Mais on ne va pas mettre du chauffage avant d'isoler. C'est vraiment la base, quoi. Et là, début 2024, une succession de retours en arrière sur lesquels on est encore en train d'apprendre au fil des semaines des nouveautés, donc on n'a pas encore toutes les réponses. Et je pense qu'on est vraiment gouverné par une peur de l'effondrement économique d'une filière, alors que beaucoup de papiers le montrent, la transition écologique, et notamment dans le bâtiment, va produire plus d'emplois que l'état actuel. 700 000 rénovations performantes par an, on ne peut pas le faire tout de suite. Par contre, si on nous dit d'ici 2030, on va cheminer pour passer de 80% de rénovation partielle à, je ne sais pas, même 60% de rénovation globale, oui, ça j'y crois. Ça pourrait être de se dire, pendant 2-3 ans, il y a moins de rénovations qui se font que l'année passée. Ça va contre toutes les métriques de l'économie telle qu'on l'a depuis des années. Mais juste pendant 2-3 ans, on a moins de rénovations, mais potentiellement on a plus d'économies d'énergie au niveau global parce que ce sont des rénovations plus performantes.
Comment vous qualifieriez le moment dans lequel on est aujourd'hui sur ce cheminement, cette montagne à gravir de la rénovation énergétique ?
Pour moi, le vrai sujet aujourd'hui, c'est une lutte entre de la décarbonation pure, simple, rapide, et une rénovation performante qui a d'autres enjeux. Si vous voulez faire de la décarbonation rapide pour des enjeux climatiques et afficher, l'État notamment a besoin, dans le cadre des procès qui lui sont intentés par différentes associations, a besoin de prouver qu'il met en œuvre des actions de décarbonation pour rester sous les 2 degrés ou les 1,5 degré de réchauffement à terme. Et donc ça tend à faire des réformes et des mesures de décarbonation rapide. Donc typiquement, le changement de chauffage fossile pour mettre une pompe à chaleur. Et ça ne coche pas toutes les autres cases. On ne sort pas les personnes durablement de la précarité énergétique, on ne fait pas les économies d'énergie qu'il faut parce que vous allez avoir un chauffage qui consomme plus dans un logement qui n'est pas isolé. Et c'est vraiment ce conflit, je trouve, entre une vision très court-termiste qui va contre une vision de plus long terme de ce qu'il faut vraiment pour vivre dans un monde en 2050, en fait.
La vision d'ensemble du territoire à rénover, plusieurs architectes et urbanistes commencent à s'en saisir. Avec une idée, mutualiser les travaux pour qu'au-delà des aides individuelles et de l'accompagnement des ménages, les rénovations se fassent à l'échelle de quartiers, d'îlots ou de groupes de maisons. À Noisy-le-Grand, l'expérience a déjà commencé au Bosquet des Richardets. Le quartier est inscrit dans le programme Zéro Exclusion Énergétique porté par la communauté d'agglomération Grand Paris Grand Est. Le but, aller vers les ménages, prendre en charge tout le montage des dossiers de demande d'aide et enclencher les rénovations par bande de maisons mitoyennes. C'est là que nous emmène Claire Chaudière.
Interception sur France Inter.
Alors autour de moi, une ribambelle de pavillons collés les uns aux autres de couleur beige, construits dans les années 70 par le même architecte. Chacun son petit jardin. On est à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, un petit lotissement à deux pas de l'autoroute A4 qu'on entend là au loin. Ici vivent des retraités modestes, des ménages plutôt classe moyenne on va dire, mais aussi des cadres et la plupart sont propriétaires.
Bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir.
On est chez une assistante maternelle, mais qui nous a donné rendez-vous après le départ des enfants. Vous accueillez combien d'enfants ?
Actuellement 2. On a acheté la maison à Pâques, on s'est installé en début mai.
On a eu quelques travaux à faire, puisque la maison était assez ancienne. Et voilà, on s'est intégrés gentiment.
Là, on est en hiver, il fait pas très froid chez vous quand même.
Non, parce que moi je suis habituée à avoir assez chaud. Je suis à 21 dans la journée pour pas que les petites aient froid. Quand on a acheté, on avait les DPE qui étaient à F ou G, donc c'était pas top. On savait que c'était pas bon, donc on a négocié un petit peu le prix. Mais après, voilà, on savait qu'on ne pourrait pas nécessairement faire les travaux tout de suite, mais que dans un futur, on les ferait. Là, du coup, ils regroupent tout. C'est eux qui cherchent les artisans, c'est eux qui nous présentent les devis, c'est eux qui gèrent tout.
Quand vous dites « ils », c'est qui exactement ?
Oh, c'est le Grand Paris et une société qui prenait... Il y avait un architecte aussi, et la société qui prenait des mesures. En fait, si, par exemple, imaginons qu'on fasse les travaux sur les 6 maisons, en fait, il y aurait un maître d'œuvre, et du coup, on sera dégagé de toute la partie de recherche d'artisans et le fait que tout le monde puisse avoir droit à des aides, alors plus ou moins, en fonction des revenus, mais voilà, ça peut aider à ce que tout le monde accepte les travaux, par exemple. Donc c'est vrai que le fait de faire, par exemple, les 6 maisons d'un coup, ça sera plus joli déjà, et puis financièrement, ça sera plus intéressant. Après, c'est tout dépend. Si c'est moins de 10 000 euros, je pense que c'est jouable. Si c'est plus, je pense qu'il faudra qu'on y réfléchisse et qu'on voit comment ça se passe.
Donc, à suivre.
C'est ça, ça sera la surprise. On est impatients, on verra bien.
Eh ben, merci de votre accueil, au débeauté, comme ça.
C'est un plaisir.
Et bon appétit.
Merci, rentrez bien.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Florence Prisson. Je suis coordinatrice du parcours de rénovation énergétique performante sur les 14 communes qui constituent le territoire Grand Paris Grand Est dans le 93. Ce sont des maisons qui sont mitoyennes et avec à peu près 2 à 3 modèles. Vous voyez par exemple celle-ci, c'est la copie conforme de celle qui est à côté. Et encore celle qui est à côté. Il y en a certaines, ce sont des bandes de maisons. C'est un quartier avec une mixité importante. Vous pouvez avoir des retraités, des personnes avec des revenus assez modestes, des personnes fragiles, avec un certain âge, et à côté, une famille qui vient de s'installer avec les enfants et plutôt un profil de cadre. Cette mixité-là, elle n'est pas évidente parce que certains ont les moyens de rénover leur maison. Mais comme je disais, étant donné que c'est une bande de maisons, les unes mitoyennes aux autres, on ne peut pas imaginer que certaines maisons soient rénovées et pas celles qui jouxtent. Donc, il était important de partir dans une démarche globale, au moins globale par bande de maisons.
Ici, on est quand même sur un projet un peu innovant. Expliquez-moi de quoi il s'agit.
Alors, si on imagine une préfabrication de grands murs d'isolation, eh bien, étant donné que ces maisons-là, vous voyez, regardez, là, il y a 3 maisons, elles sont avec un grand mur et des fenêtres au milieu. Donc, ça veut dire qu'on pourrait très bien imaginer sur, je ne sais pas, moi, il doit y avoir 25 mètres peut-être, eh bien, ces 25 mètres-là puissent être fabriqués à l'abri dans un grand hangar par des personnes qui travaillent dans de bonnes conditions et qu'il y ait à ce moment-là un convoi qui amène ces plaques et un principe de clipsage sur la maison. Alors là, si des artisans m'écoutent, ils vont considérer qu'on ne clipse pas de cette façon, mais eux connaissent les bons termes. C'est pour ça que je ne suis pas artisan, mais que je pilote ce projet. Là, on est vraiment dans la démarche globale.
Dire qu'on est très très en retard déjà. Si on n'engage pas ces démarches collectives à l'échelle d'îlots, on ne sera jamais au rendez-vous 2050. François Pellegrin, architecte urbaniste et militant depuis mes plus jeunes années d'architecture sur ces sujets d'environnement, de bioclimatique et de qualité de vie. Ben, sortir de la démarche individuelle, c'est ouvrir, soyons triviales, la possibilité aux habitants, finalement, d'accéder à des prix de marché bien inférieurs. En mutualisant, forcément, on élargit le périmètre, on élargit le chiffre d'affaires, donc on va pouvoir mieux négocier les prix de travaux rénovés. Donc on peut annoncer, chacun est un cas particulier, mais du moins 15, moins 20% sur le prix du mètre carré rénové, si on accepte de s'engager dans une démarche collective. Qu'est-ce qui coûte dans un chantier ? C'est toute la logistique, c'est toute l'installation, c'est l'amener du matériel, c'est les engins de chantier, c'est tout ça. Donc si on peut mutualiser tout ça, déjà, on fera de l'économie. On peut s'organiser sur des zones de stockage de matériaux. On peut évidemment aller voir ensemble, discuter avec tel ou tel grand fournisseur et dire, écoutez, voilà, il y a 50 maisons. Donc ça fait tel type de mètres carrés, d'isolant, de toiture, de mur, etc., changement de fenêtre, discutons ensemble. Avec, en plus, une qualité assurée, parce qu'il y aura tout l'environnement professionnel, les certifications des produits, la qualification des acteurs.
Et puis on accélère les choses.
Évidemment, parce que ces 50 maisons, on va les faire, on va les traiter, le chantier, on va le traiter sur un an et demi, alors que si vous diluez ça, c'est pour 20 ans. C'est l'enjeu d'aujourd'hui. Je reste optimiste parce que créer un habitat de qualité, sans avoir besoin d'aller créer des lotissements, c'est de la couture urbaine, mais beaucoup plus efficace que l'acupuncture qui consiste à traiter sur 50 ans une parcelle par-ci, une parcelle par-là. Voilà, je suis optimiste. Si on accepte de changer de méthode, le fait qu'on se dise qu'il faut qu'on sorte de l'individualisme de la parcelle, ça commence à faire son chemin. J'aimerais que ça se fasse massivement dans les 5-10 ans qui vont venir. Je crains que ça mette un peu plus de temps, mais faut y croire.
Passoire thermique, le grand chantier de la rénovation, c'est un reportage de Claire Chaudière, prise de son Romain Lucquins et Raymond Albouy, réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier, mixage Bruno Mourlan. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur franceinter.fr et les applications du groupe Radio France.